philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 17 février 1994.
L'aimant est dans l'aimé, mais différemment, selon qu'il y a amour de convoitise. celui qu'il aime et comme identifié avec lui. Au contraire, en tant qu'il veut et agit pour son ami comme pour soi-même, le considérant comme un autre avec soi, c'est l'aimer qui est dans l'aimer. Oui, ça devrait essayer de voir toutes les convergences qu'il peut y avoir. Alors, ce qui est très difficile dans cette question, c'est que, vous voyez bien, il y a toujours sous-jacent la ratio amitiusier. Au niveau sensible, au niveau spirituel, au niveau divin, vous chevauchez les trois niveaux. Et on trouve toujours dans l'amour cette... Vous voyez, ce qui fait comprendre que l'amour d'amitié, c'est l'amour parfait. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'au fond, cette inhérence mutuelle n'existe parfaitement que dans l'amour d'amitié. Alors ça d'abord montre que c'est la raison même d'amour qui applique ça. Et ça, c'est très fort. Ça montre que l'amour passionnel n'est qu'un amour très imparfait. Et que le véritable amour est un amour spirituel d'amitié réciproque. Il réclame la réciprocité. Et ça, c'est très fort pour pouvoir l'appliquer à Dieu, vous voyez, et montrer que ce n'est que dans la très sainte Trinité que l'amour d'amitié est parfaitement humain. Ce sont des articles qu'il faudrait étudier de très près. On va vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais revenez souvent à cet article 2. Parce qu'il est très fort et il n'est pas commode à comprendre. Parce que ça montre comment l'amour n'est parfaitement lui-même que dans le point de vue spirituel. Alors ça, c'est très important pour nous. Au point de vue proprement, notre auto-éducation. Notre auto-éducation se fait par l'amour. Vous ne pouvez pas vous éduquer en dehors de l'amour. Et votre auto-éducation permet d'éduquer les autres. Si vous n'avez pas l'expérience de l'amour, vous ne pourrez pas éduquer les autres. Et si vous avez cette expérience de l'amour spirituel, vous pouvez et vous devez le faire. Et on doit à ce moment-là pouvoir affirmer à ceux qu'on a, je vous ai déjà dit cet exemple que j'avais, qui m'est resté parce que c'était pas commode. C'était à Fribourg. Je connaissais un type épatant, merveilleux, qui était général du maquis. C'était mis les grades du maquis pendant la guerre. Alors, il était un type 400. Il avait sa sœur qui était mariée avec un bon bourgeois. Fribourgeois dans le sens, vous voyez, dans le sens fribourgeois suisse. Et alors, après la guerre, il faisait un autre maquis. Puisqu'il avait ses dons un drôle. Remarquable. Et vous voyez très bien le type. Je l'aimais beaucoup parce que c'était un type qui avait été un héros pendant la guerre. Vraiment un héros. Ça comptait rien quand il s'agissait vraiment de sauver quelqu'un. Et alors on m'avait dit, écoutez, vous pourriez peut-être lui dire, hein, c'est pas bien ce qu'il fait. Pour lui, le point de vue chrétien, c'était, oui, ça existait traditionnellement. Mais c'était pas très très ce qui brûlait son cœur, c'était en jouer un rôle dans le maquis après Donjon. Alors j'avais dit bon, parce que je l'aimais beaucoup et que autour de moi on m'avait supplié de le faire. Il y a que vous qui pouvez l'atteindre. Et vraiment il exagère. Et c'est vrai, il exagérait pas mal. Tu me dis, c'est pas digne de toi de faire ça. Alors il m'a regardé. Mais tu vois, tu connaissais rien. Je n'y connais rien dans l'autre. via l'extase divine. Lorsqu'on est hors de soi. Dans l'ordre de l'appréhension et dans l'ordre celui de l'affectivité. Alors c'est très curieux qu'il prend l'appréhension, parce que l'appréhension, la vim appréhensivam, c'est plutôt l'immanence. Et Satama n'hésite pas de dire cela peut arriver dans l'ordre de l'appréhension et dans celui de l'affectivité. Dans l'ordre de l'appréhension, on dit que de quelqu'un qu'il est mis hors de soi, quand il est entraîné hors de la connaissance qui lui est propre, que ce soit par introduction à une connaissance plus haute, comme il en va pour l'homme élevé à la compréhension de certaines choses dépassant la portée de ses sens et de sa raison. On doit, et donc on dit qu'il est en extase parce qu'il est transporté hors de la perception naturelle de sa raison et de ses sens. On pourrait dire que l'induction conduit à une extase de l'appréhension. Vous voyez ? Ça, ce serait intéressant, parce que c'est exactement ça. On est transporté au-delà de la raison, au-delà des sens. C'est le propre de l'induction. C'est propre de la saisie d'un principe. La saisie d'un principe nous met comme en présence d'une extase. Et la vision béatifique sera extatique. Et il y a une extase intellectuelle déjà des ici-bas qui nous permettent d'approcher le point de vue de la vision béatifique. Que ce soit par introduction à une connaissance plus haute, comme il en va pour l'homme élevé à la compréhension de certaines choses dépassant la portée de ses sens et de sa raison. Et dont on dit qu'il est en extase parce qu'il est transporté hors la perception naturelle de sa raison et de ses sens. Ou bien parce qu'il est ravalé en dessous de soi, comme subit une extase celui qui tombe dans la folie ou la démence. C'est la caricature de l'induction. La caricature de l'induction, c'est celui qui roule en dessous de la table, n'est-ce pas ? Parce qu'il tombe. Dans l'ordre affectif, on dit qu'il y a extase lorsque la faculté d'aimer se porte sur un autre, faisant sortir de soi la première de ces deux extases et l'œuvre de l'amour par mode de disposition. Pour autant que l'amour fait méditer sur ce qu'on aime, comme nous l'avons dit. La méditation intense d'une chose fait oublier toutes les autres. Quant à la seconde extase, l'amour en est l'amour en est la cause directe, purement et simplement, dans l'amour d'amitié, et d'une certaine manière seulement dans l'amour de convoitise. Ah, dans l'amour de convoitise, l'aimant se porte en quelque sorte hors de soi, selon que non content de jouir du bien qu'il possède, il cherche à jouir de quelque chose en dehors de lui. Mais parce que ce bien extérieur, il cherche à l'avoir pour soi, il ne sort pas à vrai dire de soi. Une telle affection, en fin de compte, se ramène à
pardon, mon père.
C'est vous. Oh, mais tu prévenais-moi, oui, tu dis fort. choc. Je croyais que c'était lui qui était en faute. C'est ici la faute. Quand ça se... Parce que je le sens bien que ça se tait. La faute est d'où? Quoi?
La boîte a tourné comme ça.
C'est là.
Il faut qu'elle soit verticale. De celui qui est tout entier attentif
avoir du bien. Mais il y a une extase plus profonde, qui est l'extase même de l'ami par rapport à son ami. Et je comprends très bien que saint Thomas prend le point de vue ici de la passion, ou alors on comprend très bien quand on aime passionnément quelqu'un, au point de vue de la passion. La passion ne donne qu'un aspect extatique au niveau de la volonté. Mais quand l'amour est spirituel, c'est l'amour lui-même qui est extatique. Et c'est comme la manifestation d'amour. C'est comme, j'allais presque dire, la propriété. Au plan métaphysique, c'est la propriété d'amour. C'est pas l'effet. Saint Thomas est dans les passions. Alors, l'extase est l'effet. Et ce qui est effet d'un amour passionnel devient, au niveau de l'amour spirituel, propriété, manifestation, épanouissement. Le zèle est-il un effet de l'amour? Alors, d'après Denis, Dieu est appelé zélateur à cause du grand amour qu'il a pour les êtres. Zélato, zélotes, propter multum amorem, comme habet ad existentia. Le zèle, zélus, le zèle, en quelque sens qu'on le prenne, vient de l'intensité de l'amour. l'apôtre parle à cet endroit du zèle de la jalousie. Le zèle, c'est l'objection. Le zèle est une source de dispute, comme on le voit par ces mots de saint Paul, puisqu'il y a parmi vous du zèle et des disputes. Il n'est donc pas un effet de l'amour qui fuit les disputes. L'apôtre parle à cet endroit du zèle de la jalousie, qui provoque en effet des disputes, non certes contre la chose aimée, mais en sa faveur et contre ce qui lui fait obstacle. On a du zèle pour réaliser quelque chose. Et ce zèle peut susciter des jalousies. Ça, c'est sûr. Quand dans une communauté, il y a quelqu'un de très zélé, tous ceux qui le sont moins le jalousent. C'est pour ça que je crois que parmi les apôtres, Saint Jean a été occasion de la jalousie de Judas. Judas n'a pas été jaloux du Christ, mais de Jean, apôtre bien-aimé. Et je crois que c'est pour cela que Jean montre qu'à la scène, Jean est tout proche du cœur de Jésus. Pour que nous comprenions comment cet amour si fort de Jésus à l'égard de Jean et de Jean à l'égard de Jésus a provoqué une terrible jalousie. Pour provoquer la jalousie de Judas, il faut qu'il y ait eu un très grand amour de Jésus pour quelqu'un. L'objet de l'amour est le bien qui tend à se communiquer. Or, le zèle répugne à la communication. Il ne souffre aucun partage dans l'objet de son amour. Ne dit-on pas que les hommes ont un zèle de jalousie pour leur épouse, qu'ils veulent pour eux être seuls? Le zèle ne vient donc pas de jalousie. Ne vient donc pas d'amour. Réponse. Le bien est aimé en tant qu'il peut se communiquer à celui qui aime. C'est pourquoi tout ce qui empêche la perfection de cette communication est considéré comme odieux. Ainsi donc, le zèle est causé par l'amour du bien. Or, il arrive que, par manque de bonté, certains biens de peu de valeur ne peuvent être possédés simultanément et intégralement par plusieurs. C'est de l'amour de ces biens que naît le zèle de jalousie. Il n'en va pas de même, à proprement parler, quand il s'agit des biens que plusieurs peuvent posséder pleinement. Nul ne jalouse pour la connaissance de la vérité que plusieurs peuvent acquérir sans partage. On peut seulement être jaloux de la posséder exclusivement. Oui, ça c'est sûr, que lorsqu'on est en face d'un bien qui peut être partagé par plusieurs, et non pas limité, mais seulement un qui peut en vivre, il n'y a pas de raison de jalousie. Vous êtes jaloux du gros morceau que prend votre voisin, sans faire du tout attention qu'à côté de lui, il y en a un qui pourrait prendre aussi le gros morceau. Et vous le prenez. C'est la douane. ces mots d'oser. Ils sont devenus abominables comme objet de leur amour. Ceci doit s'entendre de l'amour au point de vue de ce qu'il y a de formel en lui, c'est-à-dire de l'appétit. Quant à l'appétit matériel de la passion de l'amour, à savoir une certaine modification corporelle, il arrive que l'amour blesse à cause d'un certain excès, comme parfois dans l'activité du sens, ou en tout acte d'une puissance de l'âme qui s'exerce avec modification de l'organe corporel. Donc vous voyez, comment ça tombe amoureux que l'amour peut blesser? Un amour qui va trop loin, il peut blesser le cœur. Parce que il y a au niveau passionnel